Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse. Peut-on vraiment décoder les gestes et les postures d'autrui pour mieux anticiper son comportement, entrer en résonance avec lui, mieux communiquer ou au pire mieux le manipuler? Est-il vraiment possible de décrypter le langage non verbal hors de tout contexte social? Nos gestes révèlent-ils vraiment les tréfonds de notre personnalité? Quelles sont les preuves scientifiques des méthodes qui prétendent décoder nos gestes, attitudes et mimiques? S'agit-il de pseudosciences, voire de charlatanisme? Nous attendons vos questions et réactions par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook et bien sûr au standard de France Inter 01 45 24 7000. Ulysse et Josué attendent vos coups de fil. Et puis dans quelques minutes, notre psychiatre maison Christophe André délivrera son regard sur notre sujet du jour.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Observez bien sa réaction.
Les fédéraux ont donc commencé à passer les deux plus grosses églises noires de l'État au PENFA.
On voit bien une expression de joie passer sur son visage, même s'il fait tout pour la cacher. Ça n'a duré qu'une fraction de seconde, moins d'un centième de seconde. C'est ce qu'on appelle une micro-expression. Si votre suspect a l'air surpris pendant plus d'une seconde, c'est un menteur, à tous les coups. Si vous observez cette micro-expression sur la tête de votre femme, c'est qu'elle va bientôt demander le divorce. Et je sais de quoi je parle.
Est-ce que ces micro-expressions peuvent varier en fonction des personnes?
Ces expressions sont universelles. Les émotions s'expriment toujours de la même façon, qu'on soit une femme au foyer ou un terroriste. La vérité est écrite sur nos visages.
Un extrait de la série américaine Lie to Me avec Tim Ross. La vérité est-elle inscrite sur nos visages, dans nos gestes? Peut-on vraiment décoder le langage du corps? Pour répondre à cette question, deux invités. Bonjour Pascal Lardelier.
Bonjour.
Professeur à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Vous publiez chez EMS Enquête sur le business de la communication non verbale, sous-titré Une analyse critique des pseudosciences du langage corporel. Bonjour Marouane Méry.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Vous êtes négociateur en situation complexe, expert en détection du mensonge et analyse comportementale. Et vous avez notamment publié chez Erol, Vous mentez, détecter le mensonge, démasquer les menteurs. Pascal Lardelier, dans votre ouvrage, vous fustigez la mode du décryptage de la communication non-verbale. Sur un moteur de recherche, il suffit de taper communication non-verbale pour se rendre compte de l'engouement pour le décryptage du non-verbal.
Alors c'est vrai que c'est devenu une mode, une frénésie. Bon, la série Lie to Me, dont on écoutait un extrait à l'instant, a aussi porté tout ça.
Qui se base sur les travaux du célèbre psychologue américain Paul Ekman. Hein.
Oui, oui, mais alors mis à part la joie et la tristesse, bien, bien malin est celui qui, avec certitude, peut dire que c'est du dégoût, du mépris, et en plus un cinquième de seconde. Hein. Donc voilà, ce sont des théories qui ont eu beaucoup de succès, qui ont beaucoup de succès. Et c'est vrai que dans ce livre, je fustige cette espèce de mode social, médiatique. On peut plus avoir un débat télévisé sans qu'aussitôt le lendemain, des décrypteurs, décodeurs patentés viennent délivrer leurs oracles sur les émotions et les pensées secrètes de tel ou tel candidat. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu insupportable. Alors attention, je suis l'inquisiteur d'aucun procès, je suis le chevalier blanc d'aucun combat, mais c'est vrai que je me demande si dans notre société, bientôt, on ne sera pas tous passibles du délit de sale geste. Hein. Et c'est vrai que devant ses collègues, devant ses conjoints, devant ses enfants, est-ce que demain, on pourra nous décoder à notre corps défendant et lire dans nous à livre ouvert.
Pourtant, un chercheur américain en psychologie, Albert Mehrabian, a mis en évidence l'importance du non-verbal dans la communication. Quand deux personnes échangent, le non-verbal et l'intonation semblent plus importants que le sens produit par ce qui se dit. C'est l'équation 7%, 38%. 55%. Expliquez-nous, Pascal Lardelier.
Alors, déjà, cet ouvrage que vous venez de citer, que je fais paraître cette semaine, eh bien, il part de ça. Les premières pages disent que c'est une espèce de serpent de mer, vraiment, qui a eu une pérennité absolument incroyable, mais qui demande à être relativisé. Parce que quelles sont les méthodologies qui permettent, sans coup faire rire et de dire de manière universelle de surcroît, que quand quelqu'un parle devant vous, 7% seulement, c'est-à-dire la portion congrue du sens, serait seulement allouée au langage. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui demande à être relativisé. D'ailleurs, Mehrabian ensuite à plusieurs reprises essayer de relativiser tout ça. Je persiste à penser, c'est mon credo, que le sens des gestes, il dépend de la dynamique de l'interaction, il dépend de ce que vous êtes en train de dire, il dépend de votre culture d'origine, sociale, etc. Et puis, bien évidemment, il dépend du contexte. Et c'est vrai que faire des photos figées, comme la plupart des gourous que je fustige, faire des photos figées, couper le son et puis dire ça veut dire ça, ça n'a absolument aucun sens à mes yeux.
Alors, Marouane Méry, je rappelle que vous êtes négociateur en situation complexe, expert en détection du mensonge. Dans votre pratique professionnelle, dans les négociations complexes que vous menez, quelle place pour la communication non-verbale, pour le langage corporel ?
Alors, comme le disait à juste titre monsieur, on communique par trois canaux, le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Donc le verbal, c'est les mots qu'on va pouvoir utiliser, la structure. Le paraverbal, c'est ce qui donne du relief au discours, la prosodie, la logorée, le rythme, silence, pause. Voilà. Et après, tout ce qui est non-verbal. Donc réponse neurophysiologique, la gestuelle et les expressions faciales ou des fuites émotionnelles. Sur des situations de crise, en fait, comme l'enjeu est important, le corps va être d'autant plus enclin à réagir. Plus l'enjeu est important, plus ça va être difficile pour vous de réprimer en fait certains comportements ou certaines émotions. Ce sur quoi on travaille, c'est ce qu'on appelle les anomalies comportementales. Voilà, dès lors qu'il peut y avoir des incongruences, des décalages entre ce qu'on peut dire et ce que le corps peut manifester. Encore une fois, tout ça ne veut rien dire en soi, ce sont des alertes qui font qu'on va s'interroger. Parce que ça peut être idiosyncrasique, ce qui veut dire que ça peut être issu du comportement singulier de la personne, ça peut être quelque chose qui lui est simplement passé par la tête, ou ça peut révéler notamment un mensonge ou simplement de l'inconfort. Notre job, c'est de pouvoir pointer ça et de creuser en conséquence, que ce soit dans le cadre d'un interrogatoire, d'une négociation ou d'un entretien.
Pascal Lardelier.
Oui, c'est vrai que alors vous avez raison, il faut toujours relier ça à un contexte. Mais ce que je voudrais dire, attention, je dis pas que le non-verbal guillemets n'a pas de sens. Depuis la rhétorique d'Aristote, on sait qu'on peut jouer du corps, des mains, la chironomie, etc., pour arriver à produire un sens. Et puis les techniques théâtrales l'enseignent, etc. Par contre, ce qui est important, je pense, c'est que on peut, en tout état de cause, ne pas lier de manière universelle et systématique un geste avec une émotion. Et les choses, quelles que soient, vous dites oui, on peut détecter ce qu'on appelle des signaux faibles, bien sûr. Mais en aucun cas, on peut le généraliser.
Mais par exemple, si Christophe André se gratte le nez en me parlant, ça ne veut strictement rien dire. Et pourtant, si je vous regarde avec une expression de dégoût, vous n'en déduirez pas que j'ai très envie de passer mes prochaines vacances avec vous.
Oui, mais si vous jouez un jeu dans l'interaction sociale, hein, et on sait que les logiques de séduction, la drague, consistent en permanence à jouer un jeu qui est rhétorique, mais qui est aussi verbal. Jouer le bel indifférent, par exemple, devant quelqu'un. Donc, si vous êtes le ou la belle indifférente devant quelqu'un qui vous plaît, hein, ou si vous manifestez du cynisme parce que vous avez du mal à cacher votre flamme, qu'est-ce qu'on va en déduire? Est-ce qu'on va en déduire sans coup faire rire que vous me détestez, alors que c'est exactement l'inverse? Donc, on peut décoder, vous avez raison, dans certains contextes, et ça doit toujours rester de l'hypothèse, à mon sens.
Christophe André, bonjour.
Bonjour Ali.
Quand nous sommes en
tempête... Je peux me gratter le nez là.
Oui, allez-y, faites-vous plaisir. Quand nous sommes en empathie, paraît que c'est une zone érogène en plus. Mais... Quand nous sommes en empathie avec les autres, Christophe André, c'est aussi car nous pensons percevoir leurs émotions, leurs mimiques, leurs postures, leurs gestes.
Bien sûr, mais ce qui est très important effectivement, c'est de rappeler...
On interprète leurs gestes, leurs mimiques.
Sans arrêt, on l'interprète de façon consciente et puis aussi inconsciemment. On perçoit des petits signaux qui ne sont pas forcément traités à un niveau conscient, mais que notre corps perçoit. Mais ce que je voudrais dire, c'est parce que ça concerne beaucoup effectivement la psychologie, ces histoires-là, il n'y a pas de clé des gestes, comme vient de le dire Pascal Lardelier. Tel geste veut dire telle chose, pas plus qu'il n'y a de clé des rêves. C'est pas parce que je rêve de ça que ça veut dire ceci. Simplement, ce sont des indices, des éléments qu'on va ajouter à d'autres et qui vont faire penser notre jugement, nos convictions, dans un sens ou dans un autre.
Marwan Mery.
Je cautionne à 100% les dictionnaires de gestes, comme on peut en produire dans tous les sens. Alors encore une fois, après, on peut blâmer soit le lecteur, soit celui qui peut le produire, parce que les lecteurs sont en recherche de consommables, une réponse à chaque page, donc ça c'est très appréciable. Les gestes en soi n'ont aucune valeur, ne veulent absolument rien dire, et malheureusement, en fait, vous avez énormément de gourous, de coachs en tout genre qui interviennent sur le sujet. Encore une fois, notre job, c'est de lier à un contexte, de le lier à une dynamique, et après de s'interroger dans un deuxième temps.
Pascal Lardelier.
En fait, la plupart des ouvrages qui se vendent à la tonne dans les grandes surfaces, ce sont des horoscopes relationnels. C'est-à-dire qu'on va vous vendre des clés en vous disant, voilà, si la demoiselle ou votre patron fait ça devant vous, ça voudrait dire ça sans coup faire rire. Puis on a le droit d'y croire, hein, après tout. Bon, voilà. Mais ce sont vraiment des horoscopes relationnels dès lors qu'on universalise à vil prix des gestes, hein, qu'on va réifier en quelque sorte.
Vous pensez aux ouvrages de Joseph Messinger, notamment?
Oui, alors Feu Joseph Messinger, où je m'attaque, enfin guillemets, mais j'essaye de mettre toujours les incohérences, les insuffisances et les faiblesses de la synergologie dans mon ouvrage.
Allez, ses gestes sont précis, sa posture droite, son regard profond, Christophe André, et ses choses vues.
Choses vues.
Je suis votre thérapeute.
Christophe André.
Christophe André, qu'évoque pour vous notre sujet du jour ?
Eh bien, ça m'évoque le mensonge, figurez-vous. Alors au début, je me suis dit, mais pourquoi, en réfléchissant sur le langage du corps, tu penses au mensonge ? Puis je me suis dit que ces derniers temps, on avait vu tellement de personnages politiques pris en flagrant délit de mensonge. Alors bon, je sais, il n'y a pas que qui mentent, mais l'argument « il n'y a pas que moi, les autres aussi » n'est pas une excuse lorsqu'on est élu de la République. Enfin bref, revenons au mensonge. C'est compliqué de savoir si quelqu'un nous ment. Les chercheurs, comme nos invités, disent qu'on peut voir ça, par exemple, au trop grand nombre de détails. Quand quelqu'un nous bobarde, il a souvent tendance à trop en faire, à nous noyer sous les précisions pour mieux nous convaincre. Mais ces mêmes chercheurs disent que souvent, c'est du côté de notre corps qu'on peut aussi trouver les éventuels indices de mensonge. À un moment, les services de police et de renseignement cherchaient à mettre au point des détecteurs de mensonges basés sur les modifications de notre rythme cardiaque ou de notre conductance cutanée. Vous savez, c'est le fait que notre peau conduise plus ou moins bien l'électricité parce que le stress du mensonge nous fait transpirer. En fait, c'était surtout des détecteurs d'émotivité. Par exemple, les gens timides faisaient biper la machine, même quand ils ne mentaient pas, parce que ça les inquiétait de pouvoir être pris pour des menteurs. Et les vrais psychopathes et les menteurs professionnels gardaient bien souvent, eux, un calme olympien. En plus, un détecteur de mensonges, ça nous aurait privé de quelques grands chefs-d'œuvre de la littérature et de la chanson.
Si seulement tu m'avais dit la vérité, nous ne serions pas sur le point de nous quitter. J'aurais toujours gardé au fond de moi l'amour que j'ai eu peur de perdre autant de fois, puisque tu as triché.
Bon, oublions les détecteurs de mensonges et revenons vers un appareil bien plus perfectionné, notre cerveau. En fait, on a pu montrer qu'en regardant bien nos interlocuteurs, avec un peu d'attention et d'habitude, on peut voir beaucoup de choses. Lorsque quelqu'un nous ment, son langage corporel se modifie bien souvent. Il contrôle davantage ses gestes, il parle moins avec les mains. Il a aussi ces micro-mimiques du visage que nous évoquions tout à l'heure, très brèves, qui peuvent laisser filtrer des émotions indésirables. Mais tout ça va très vite. Et souvent, on ne perçoit pas consciemment ces petits détails. Nous avons besoin de repasser des vidéos au ralenti pour éventuellement les dépister. Par contre, notre cerveau, lui, peut les percevoir de manière subconsciente et nous envoyer des petits ressentis de malaise ou d'inconfort. On sent alors que la personne n'est pas tout à fait nette, mais on ne sait pas trop que faire de cette intuition. Or, notre corps est notre ami, il nous envoie généreusement des informations précieuses. Alors, écoutons-les peut-être plus souvent. Bon, maintenant, Ali, regardez-moi dans les yeux et dites-moi la vérité. Si vous étiez mis en examen, comme deux des candidats à la présidence de la République, est-ce que vous continueriez tout de même d'animer Grand Bien vous fasse ou est-ce que vous colleriez votre démission ?
Ça dépend pour quelle mise en examen. Si c'est pour de la diffamation, non. Si c'est pour autre chose, certainement. Certainement. Marouane Méry, je rappelle que vous avez publié « Vous mentez » sur ce que vient de nous dire Christophe André.
Oui. Et vous souhaitez que je réagisse sur quoi ?
Oui, je sais pas sur ce que... sur ce qui vient d'être dit.
Oui, alors la détection du mensonge, c'est un vaste sujet qui passionne les foules, notamment avec tout ce qu'on peut voir dans la presse. Détecter le mensonge, c'est extrêmement complexe. Pour votre information, ça fait 23 ans que je travaille dessus, je reçois 3 à 5 CV par semaine sur le sujet. Tout le monde veut être détecteur de mensonges, parce que les séries américaines, ont fait la part belle à tout ça. Vous parlez du polygraphe, le détecteur de mensonges, donc c'est un excellent détecteur de stress, de réponse neurophysiologique, et en aucun cas un détecteur de mensonges. Malheureusement, en fait, chacun cherche sa propre vérité, et c'est des sujets qui attirent énormément. Pour détecter le mensonge, comme vous le disiez, les méthodes les plus fiables, scientifiquement, sont justement d'augmenter la charge cognitive. La charge cognitive, c'est l'effort mental que vous devez produire pour réaliser une action. Donc plus on va être en mesure de saturer la charge cognitive, voilà, de la partie adverse, entre guillemets, que dans le cadre d'une négociation, un interrogatoire ou un entretien, plus le corps va être enclin, voilà, à produire des choses. Mais au niveau également verbal ou paraverbal. Donc vous parliez de la latence, généralement, peut augmenter, le temps de réponse, voilà. On va plutôt moins produire de détails que plus de détails, justement, parce que le but, c'est de ne pas être confondu par la suite. Et après, vous allez avoir également certaines réponses au niveau de... Vous parlez des micro-expressions. Voilà, notamment des fuites émotionnelles qui peuvent durer entre un cinquième et un 25e de seconde. Encore une fois, ce sont des alertes. Ouais. Et après, à nous d'aller creuser l'information.
Merci Christophe André. En tout cas, Richard Anthony, ça nous a fait du bien là. Hein. Merci beaucoup Christophe. Les choses vues, c'est tous les mardis dans Grand Bien vous fasse. Une émission préparée par Alexia Rivière et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marliot et c'est réalisé par Claire Destacan.
J'ai troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, C'est ma peine plus que la haine. Ô ma route, ô ma plaine, Dieu que je l'aime. Et tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, le diable, toi et tes apôtres, je m'en vais. Qui perle sur mon front, goutte de pluie, goutte de froid, donne des ailes, donne don, l'envie de m'éloigner de toi, et mes larmes, et mes armes, sont ma peine plus que la haine, et mes larmes, Dieu que j'ai mal, tourne et tourne dans ma tête. Images du long métrage où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable, toi et tes apôtres, oh, je m'en vais.
Vianney, je m'en vais.
France Inter, grand bien vous fasse.
10h24, peut-on vraiment décoder le langage corporel? C'est notre question du jour avec le sociologue Pascal Lardelier et l'expert en négociation difficile, expert également en mensonges, Marwan Mehri. Pascal Lardelier, tout au long de la journée, nous n'arrêtons pas de classer les gens en fonction de ce que nous percevons de leur langage corporel.
Oui.
Pourquoi faut-il se méfier des catégorisations sur l'apparence d'autrui?
C'est pour ça que ça fascine autant, c'est pour ça que c'est devenu un business éditorial dans la formation, dans le recrutement assez énorme. C'est que, je le disais tout à l'heure, on peut être doté, si on savait lire le langage d'autrui, si tant est qu'il existe, on pourrait être doté d'une espèce de toute puissance relationnelle, hein. Et c'est quelque chose, finalement, d'assez fascisant dans l'esprit, hein. Je parle de discours parasectaires, d'ailleurs, dans mon livre, hein. Toutes ces pseudosciences sont des discours parasectaires, parce que d'abord, un gourou ou un maître, guillemets, vous dit, ma parole est vérité, et si vous la prenez par cœur, vous pourrez lire dans autrui, et donc, prendre l'ascendant sur lui. Donc, c'est quelque chose d'assez inquiétant quand même dans l'idéologie sous-jacente.
Et pour vous, c'est la porte ouverte au racisme social?
Oui, à certains égards, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, on passe notre journée, bien sûr, à décoder, mais on n'est pas très sûr, mis à part des contextes où vous l'expliquez, où effectivement, il y a des signaux faibles qu'on peut détecter, puis il y a des enjeux énormes. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un monde, il y a un gouffre entre l'intuition subjective et la connaissance scientifique.
Et puis on se trompe beaucoup, on parle même d'erreur d'Othello. Expliquez-nous ce que c'est.
Alors, ça se fonde sur Shakespeare, hein, et donc Othello, si j'ai bonne mémoire, qui tua son épouse Desdémone parce qu'il pensait qu'elle était infidèle, et plus plus il interprétait et mésinterprétait des gestes, et puis il était convaincu de lui à lui qu'elle était infidèle au point qu'il la tua. Hein, et donc cette erreur, on la commet quand même assez souvent quand on interprète à qui mieux les gestes des gens qui se trouvent devant nous.
Marouane Méry.
Oui, tout à fait. Et pour conforter ce que peut dire monsieur, c'est l'erreur d'être accusé à tort qui va provoquer chez vous des comportements comparables à des gens accusés à raison. C'est le principe de l'erreur d'Othello. Donc Desdemone, en fait, elle produisait de la peur sur son visage parce qu'elle avait peur d'être accusée à tort. Et malheureusement, donc Othello l'a assassinée simplement parce qu'il voyait de la peur, donc qu'il le liait à l'infidélité. L'erreur Othello, en fait, simplement, vous la constatez au quotidien dans votre voiture. Vous conduisez, vous êtes bien, vous n'avez rien à vous reprocher. Et tout d'un coup, vous entendez « et là, il y a un policier qui vous somme de vous arrêter. Et là, je peux vous dire que votre pression artérielle augmente, votre rythme cardiaque. Vous n'avez pourtant rien fait. Mais encore une fois, c'est la peur d'être accusé à tort qui va provoquer ça chez vous.
Christophe André.
Oui, nous, on avait ce problème à Sainte-Anne lorsque nous soignions les phobiques sociaux et les timides. C'est-à-dire, ce sont des personnes, il suffit qu'elles sont dans un groupe, rentre dans la pièce en disant « Qui m'a pris mon parapluie ?» Et celui qui rougit, c'est pas celui qui a pris le parapluie, c'est le timide qui s'y plaise, pourvu qu'on ne croit pas que c'est moi. Et effectivement, moi, ça m'avait beaucoup frappé. Une des façons que nous avions de les soigner, c'était aussi de leur rappeler qu'en fait, nos interlocuteurs, souvent, sont de piètres observateurs. C'est-à-dire, on avait une technique où on sortait dans la rue avec un point rouge sur le front, on marchait, et nous suivions le patient qui avait le point rouge sur le front pour voir combien de gens qui le croisaient le regarder, s'arrêter. Il y avait moins de 20 à 30% des gens qui faisaient attention à ces... Et donc, les gens nous regardent très, très peu. Donc, il ne faut pas surestimer, effectivement, ce que nous pouvons dire par notre corps.
Pascal Lardelier, dans votre enquête sur le business de la communication non-verbale, vous critiquez très sévèrement ce que vous appelez les pseudosciences qui prétendent décoder le langage corporel, comme, par exemple, la synergologie. Alors, c'est quoi la synergologie?
Alors, je pense c'est une marque déjà déposée, si je vais noir. Donc
avec un S majuscule.
Donc il y a des tas de. Il n'y a qu'un avec S majuscule de surcroît, puis le petit R de marque déposée. Donc, je pense qu'il suffit que les auditeurs aillent faire un petit tour sur le site pour voir un petit peu tout ça. En fait, je suis parti d'une enquête. Je disais tout à l'heure, je ne suis pas un inquisiteur. Néanmoins, mes étudiants, parce que j'anime depuis longtemps un cours de communication interpersonnelle, et mes étudiants m'apportaient des livres qu'ils achetaient à la Aquacultura, il me disait « Monsieur, apprenez-nous ceci ». Et j'avais l'impression que le langage gestuel, guillemets, c'était une langue vivante d'eux.
Hein. C'est quoi la synergologie?
C'est une science qui dit qu'elle étudie en fait le langage gestuel dans son caractère universel et puis le lien surtout entre la gestualité et les émotions internes. Voilà. Donc elle se base sur tout un ensemble de micro-démangeaisons, de tas de signaux faibles, on se gratte, etc. On croise les bras, on est fermé, etc. etc. Et donc ça se vend... et en livre, et en formation, et en conférence, et en certification, puisqu'elle a finalement détourné ou adopté le business model le business model de la PNL. Et donc, voilà, on devient maître praticien en payant. Et donc, elle a sa base arrière au Québec, notamment.
Notre technicien Éric Morin croise les bras, et je suis très, très inquiet par la signification de ce geste. Selon vous, Pascal Lardelier, la synergologie est discutable sur le fond et sur la forme. Pourquoi sur le fond?
Le problème, et je poursuis ce que je voulais dire, c'est que finalement, ce sont des gens qui développent des théories hors sol, sans jamais avoir fait valider ces théories dans la sphère académique. Alors, toute chose égale par ailleurs, regardez ce que ça donne dans le domaine de la médecine. Hein, où on va dire, je guéris le cancer, ici et ça, prenez ma poudre de perlimpinpin. Et il y a quand même des systèmes à l'université de production, de validation et de légitimation des savoirs, hein, à travers tout un ensemble extrêmement complexe et ardu, de lecture d'articles à double aveugle, de séminaires, de colloques, de conférences internationales. Et ce sont des gens donc qui développent une science, guillemets, qui disent que cette science, j'en veux pour preuve, tirait logie, donc logos, très bien, mais qui donc n'ont jamais finalement payé le tribut à l'académie. Et c'est quelque chose d'un petit peu ennuyeux parce que on vend, alors c'est un petit peu la chauve-souris de la fontaine. En entreprise, on est une science appliquée, à l'université, et ça c'est ennuyeux, je trouve.
Et puis vous reprochez à tous ces décodeurs du langage non verbal d'être des gourous dangereux.
J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, et le livre est préfacé, ce livre-ci qui sort donc demain, enquête sur le, il est préfacé par la responsable du CCMM collectif contre les manipulations mentales. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, ce sont des discours parasectaires. Ma parole est vérité, si vous la prenez, vous lirez dans Autrui à livre ouvert.
Marouane Méry.
Oui, alors effectivement, il existe tout un tas de pseudosciences. Pour rien vous cacher, je pèse mes mots, je pense que 90% de ce qu'on peut trouver en fait dans les ouvrages sur le marché ne repose sur aucun fondement scientifique et aucune véracité opérationnelle. Moi, j'ai commencé il y a 23 ans et je travaillais dans les casinos. J'aidais les casinos à repérer des tricheurs professionnels. Donc, je travaillais beaucoup sur le comportement et je me suis rendu compte qu'avant le passage à l'acte, des tricheurs, voilà, leur corps se figeait. Voilà, une réaction due à la peur. Et en fait, vous avez des similitudes notamment avec les voleurs à l'arraché. Ce qui, par la suite, a fait que mes travaux ont intéressé police, gendarmerie et autres. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que sur les premiers interrogatoires que je pouvais mener dans les casinos, quand on chopait les tricheurs, je voulais juste m'assurer d'une chose, c'est qu'il n'y avait pas collusion interne. Que le tricheur ne soit pas de mèche avec le croupier. Et donc, quand je faisais passer mes premiers interrogatoires, j'achetais des livres pour savoir du coup qu'est-ce que je peux détecter. Et en fait, à chaque fois que j'appliquais les livres, ça marchait jamais. Parce qu'on me disait que quand il se croise les bras, il est sur la défensive, il se gratte le nez, il ment. Ça n'a rien à voir en fait. C'est que le stress va provoquer une dilatation des vaisseaux nasaux, ce qui va provoquer une sensation de grattement. Et je m'apercevais en fait que tout ça n'avait aucun fondement scientifique et aucune opérationnalité. Et donc du coup, en fait, j'ai commencé à travailler dessus et en me disant qu'il y avait le syndrome de Pinocchio déjà n'existait pas. Chacun réagissait différemment en fonction des situations. Et c'était à
c'est
moi,
quoi le syndrome de Pinocchio ?
Pinocchio, c'est qu'en fait, il existe des signes universels qui nous permettent de dire que les gens mentent. Ce qui est n'importe quoi. Chacun réagit différemment en fonction d'une situation.
Question par courriel, Béatrice, qui nous demande « Que faites-vous de la PNL, la programmation neurolinguistique, qui utilise beaucoup, et avec succès, selon Béatrice, le langage corporel ?»
Oui. Alors, en ce moment, la mode, effectivement, c'est d'être coach, et puis de surcroît, coach en PNL. Alors, la PNL, y a des choses qui fonctionnent, qui sont inspirées de l'école Palo Alto, notamment sur...
Sérieux ?
Exactement, notamment sur la communication, la synchronisation. Ils n'ont rien inventé, ils ont récupéré ce que Carl Rogers, notamment, qui est un excellent communicant.
Paul Vaclavic aussi ?
Ouais, tout à fait. Et Carl Rogers, c'est un psychologue clinicien américain qui avait du mal à entrer en contact avec des patients qui étaient difficiles. Du coup, il a développé justement des outils communicationnels pour contourner les résistances que pouvaient opposer les patients et ainsi induire le changement chez ses patients. Donc ça, on a pu le transposer partout. Le problème, c'est que sur certaines méthodes, et notamment la PNL, on travaille sur les clés de contact oculaires. Je regarde en haut à droite, je regarde à gauche, en haut à gauche, tout ça. Il y a 24 études scientifiques qui ont été menées sur le sujet, et 23 d'entre elles montrent que ça ne repose absolument sur rien. Et quand des gens, effectivement, me montrent ce qu'ils font sur le sujet, généralement, j'ai plus de 1000 vidéos sur mon Mac, et je leur montre des suspects qui regardent en haut à droite. Et je leur dis, qu'est-ce que vous en pensez ? Et ils me disent, ah ben lui, il ment. Le problème, c'est qu'il est innocent. Il était condamné à tort. Ils font, ah bon? Voilà. Et donc, du coup, en fait, le problème de tout ça, c'est que les gens qui forment sur le sujet n'utilisent même pas eux-mêmes dans leur quotidien ces méthodes-là. C'est ce qui est compliqué.
Pascal Ardelier, vous dispensez des cours à la fac sur les relations interpersonnelles. Qu'est-ce qui vous différencie des obsédés gestuels, comme vous les appelez? Vous n'apprenez pas, vos étudiants, à lire dans les autres à livre ouvert.
Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que toutes ces théories que je critique, et toutes ces pseudosciences, elles font du passé table rase. Et il y a énormément de traditions de recherche dans la psychologie, dans la sociologie, dans l'anthropologie, qui ont étudié la gestualité dans sa complexité. Alors, je pense à l'interactionnisme, je pense à la microsociologie de Goffman, je pense à l'éthologie humaine, à l'anthropologie de la communication. Il y a énormément de disciplines académiques et donc ces gens n'en font aucun cas. Donc, ils réinventent en fait l'eau chaude et le monde à partir de leur fenêtre.
Bonjour Cécile, vous appelez de Nanterre, bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Alors, que vous inspire notre sujet du jour ?
Alors, il m'inspire une réflexion sur une enquête, je crois, en psychologie sociale qui avait été faite. Il me semble me souvenir que c'est Le Poulquier, mais je ne suis pas certaine du nom, qu'il avait intitulé, finalement, au lieu de dire je ne crois que ce que je vois, en fait, il arrivait à démontrer que c'était plutôt l'inverse. On ne voit que ce que l'on croit. En d'autres termes, à travers trois tests, on invitait des personnes à interpréter du langage non verbal, c'est-à-dire qu'on leur montrait le même film en coupant le son. À certains, on faisait croire que c'était simplement deux amis qui discutaient. À d'autres, on faisait croire que l'un des deux était assistante sociale et l'autre venait régler un problème, et on inversait les rôles. Et à chaque fois, le langage non verbal était interprété de façon radicalement différente. Donc, je voulais savoir ce que pensaient vos interlocuteurs. Est-ce que ça prouve essentiellement que des gens ne sachant pas interpréter le langage non-verbal sont très dépendants de leurs stéréotypes, ou est-ce qu'au contraire, ça prouve que le langage non-verbal est avant tout un décodage de stéréotypes?
Très bonne réflexion de Cécile Marouane Méry, Pascal Ardelier.
Bon, on revient à Othello, hein, qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que
l'erreur d'Othello.
Oui, on se persuade, on capte des micro-signaux qui sont eux-mêmes, qui prennent sens dans ce qu'on va dire, des gens, des statuts, de la situation, du contexte, et c'est à partir de ça qu'on va se persuader, qu'on va s'auto-persuader du sens des gestes, d'où la relativité qu'on doit adopter quand on décode le non-verbal, guillemets, à décoder le non-verbal.
Marouane Méry.
Bien sûr, en fait, chacun structure sa propre réalité en fonction de sa propre perception, qui est façonnée par quoi ? Votre personnalité, votre éducation, votre environnement socio-culturel. Et par phénomène, justement, de dissonance cognitive, cette capacité à réinterpréter la réalité en corrigeant les contradictions, on aura tendance, justement, à faire de la post-rationalisation. On va réinterpréter les faits pour faire en sorte qu'ils collent dans notre propre réalité. C'est pour ça qu'en présentant trois vidéos, vous coupez le sont à trois personnes différentes, vous avez trois interprétations différentes, ce qui est logique.
Merci beaucoup Cécile pour votre réflexion. Christophe André, les messages émis par le corps sont-ils vraiment le miroir des pensées, des désirs, des fantasmes, des émotions ?
Un miroir lointain et infidèle, sans doute, mais une fois de plus, là, je crois que ce qu'il faut bien rappeler, c'est qu'on n'est pas en train de discréditer l'intérêt qu'il y a à observer les gestes, la mimique, l'intérêt à être attentif à autrui, tout simplement. Mais ce que nous sommes en train de dire, enfin, surtout nos deux invités, avec beaucoup d'arguments très convaincants, c'est qu'il ne faut en aucun cas en faire un outil systématique. Ce que j'émets comme signaux non-verbaux ou paraverbaux, le ton de ma voix, les gestes, ce que je fais représente plein de choses, représente mon état émotionnel habituel. Si je suis très anxieux, très timide, très mal à l'aise avec les gens, eh bien je vais être très parasité. Représente ce que je viens de vivre dans l'heure d'avant. Est-ce que j'arrive choqué ou détendu à l'entretien? Représente le comportement de l'autre. Est-ce qu'on me met la pression ou est-ce qu'on... Vous voyez, et il y a tellement de facteurs qu'il faut écouter ces indices, mais ne pas en faire un dogme.
Allez, nous attendons vos questions par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com et puis également au standard de France Inter 01 45 24 7000. Dans un instant, nous verrons quelles sont les intentions cachées de ceux qui prétendent décoder notre langage corporel. Baby, she wrote me a letter. Joe Cocker, interprétez The Letter.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h42, peut-on vraiment décoder le langage corporel? C'est notre question du jour avec le sociologue Pascal Lardelier qui publie Enquête sur le business de la communication non-verbale qui paraît demain. Et puis avec l'expert en négociations difficiles et en mensonges, Marouane Méry, qui a publié Vous mentez. Bonjour Emmanuel, vous appelez de Nancy, bienvenue.
Tout à fait, bonjour, bonjour à tous. Mais écoutez, voilà, moi j'ai quand même pu observer, ce qui me désole, c'est très intéressant l'émission, ce qui me désole un tout petit peu, c'est que vous avez tendance, enfin tous les intervenants, à balayer un petit peu certaines choses. Moi il me semble qu'il y a des choses bien réelles, même si je suis d'accord qu'on peut pas tout prendre comme argent comptant, mais par exemple, le regard, vous en avez pas trop parlé. J'ai déjà remarqué qu'il y a des personnes, lorsqu'on les rencontre, qu'on les salue ou qu'on parle, qui vous évitent du regard, qui regardent ailleurs, qui baissent les yeux, quand on sait que l'œil est un prolongement du cerveau, ou par exemple, dans moi ça je l'ai remarqué vraiment à plusieurs reprises, au moins ces deux signes-là, donc ceux qui vous regardent pas dans les yeux quand on leur parle, ou quand on se salue, ou ceux qui, dans une relation un petit peu contradictoire ou conflictuelle, qui croisent les bras, moi je l'ai toujours ressenti comme une volonté de protection ou de distanciation, et c'était souvent le cas.
Marouane Méry, réponse à Emmanuel de Nancy.
Alors, quand on rentre en contact avec quelqu'un, on établit dans un premier temps ce qu'on appelle une baseline, c'est-à-dire son comportement de base, dans une situation dénuée de stress. Vous avez des personnes qui sont par exemple schizoïdes, donc qui vivent dans des bulles psychologiques, qui font preuve de froideur émotionnelle. Plus le groupe grandit, plus ils sont mal à l'aise, et en fait, ils vont sans arrêt détourner le regard, qu'ils soient en situation de stress ou dans des situations dénuées de stress, ce qui veut dire que le regard en lui-même ne veut absolument rien dire. Le regard en soi, encore une fois, ça ne veut rien dire. Ce qui est intéressant, c'est de nommer des anomalies comportementales. Je me rappelle un interrogatoire que j'ai pu faire. Quand on commence un interrogatoire, on pose des questions dites démographiques. Donc des questions où on a déjà la réponse, juste pour voir en fait comment les personnes vont se comporter. Et en fait, sur les 10 premières questions, la personne regardait tout le temps à gauche. Et sur une question un peu plus impliquante, il a commencé à regarder à droite. Voilà, ça ne veut rien dire en soi, mais ce qui va me permettre de creuser. Là, on va noter une dissonance par rapport à ce qu'on peut observer d'habitude. Le croisement des bras, ça ne veut rien dire. Si vous deviez me connaître, ou mon associé, Laurent Combalbert, qui est un ancien négociateur du RAID, je pense qu'on passe la moitié de notre temps à se croiser les bras. Ce qui veut absolument rien dire, le problème, c'est de surinterpréter tout ça. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'ai passé un entretien, je me croisais les bras, et la RH me dit « Ah, vous n'êtes pas ouvert pour m'écouter ». Et je dis « Ah bon, pourquoi ?» Elle me dit « Vous avez les bras croisés ». Je fais « Oui, mais je suis tout le temps comme ça ». Ah, on m'a appris que c'était ça. Je fais oui, mais ça repose sur rien. Donc encore une fois, c'est la situation qui peut dicter un comportement et l'émotion que la personne peut ressentir.
Marouane Méry, j'aimerais pas passer en interrogatoire avec vous. Pascal Lardelier.
Ce qui me désole, oui, c'est qu'en fait, on vend ça en formation, en entreprise et tout, et on formate les gens à avoir des comportements complètement stéréotypés, finalement, qui chassent un petit peu le naturel. Alors cette chimère qu'on trouve dans tous les bouquins de pseudosciences, les bras ouverts, vous êtes ouverts, les bras fermés, vous êtes fermés. Enfin bon, on n'est pas des tiroirs, on n'est pas des armoires. Et c'est vrai que ça... Mais qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un de fermé? Alors, je peux avoir les bras fermés parce que j'ai froid, parce que c'est une posture naturelle, vous le disiez, parce que j'ai mal au ventre, pour des tas de raisons contextuelles.
Christophe André.
Oui, mais ces histoires d'évitement du regard, c'est très intéressant, parce que si je reste sur le regard, nous on sait en psychologie qu'il y a des gens qui ne vous regardent pas parce qu'ils vous méprisent, et ça m'arrivait parfois de croiser des gens très connus qui me serraient la pince en regardant ailleurs. Bon, des gens qui ne vous regardent pas dans les yeux parce qu'ils sont timides, ou des gens qui sont schizoïdes.
Anxieux.
Voilà, anxieux, parce que c'est leur façon habituelle de faire, donc il faut corréler ça à tout un tas d'autres signaux avant de commencer à partir dans des hypothèses.
Emmanuel, vous avez le mot de la fin.
Oui, c'est très gentil, merci. Je voulais ben justement, tout ce que vous venez de dire, ça prouve qu'on peut l'interpréter. Vous venez de parler de timidité, vous avez mis des adjectifs à ceux qui ne regardent pas. Donc, c'est que ça veut dire quelque chose.
Ça peut refléter l'émotion qu'ils peuvent ressentir, parce que vous avez des gens qui sont très évitants au niveau de la posture, du regard, les pieds vont tourner en fait dans la direction opposée, voilà, qui peut traduire effectivement ce qu'est la personne, on va dire, dans tout son être et puis au quotidien. Mais après, malheureusement, c'est que la personne peut être comme ça simplement parce qu'il y a un événement qui vient de se produire 10 minutes avant, et le risque, c'est de surinterpréter tout ça. Ce qui est important, c'est ce que vous pouvez ressentir, mais après, encore une fois, c'est d'aller creuser derrière tout ça.
Merci beaucoup, Emmanuel, de nous avoir appelé de Nancy. Alors, Pascal Lardelier, nous l'avons vu, tout un tas de disciplines se donnent comme ambition de dévoiler le sens caché du langage corporel, avec un but pour vous, prendre l'ascendant sur l'autre.
Alors, ce sont ces pseudo-sciences, hein, pas les sciences académiques qui essayent d'expliquer.
Non, je parle des pseudo-sciences, la synergologie.
Oui, je pense. Alors, eux, ils vont bien évidemment, ils ont comme feuille de vigne des chartes éthiques ou déontologiques à la fin de chacun de leurs bouquins, puis ils vont vous dire non, c'est pas du tout pour manipuler ni instrumentaliser la relation. Néanmoins, je reviens à ce que je disais, quand on dit ma parole est une parole de vérité, parce que ils universalisent, ils généralisent, et donc ce sont des vérités, hein, et que ensuite apprendre ça, ça va permettre de mieux draguer, mieux négocier, mieux recruter. Je pense qu'on est sur des discours, effectivement, de domination, d'emprise sur autrui. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, est d'un point de vue déontologique et éthique un petit peu problématique.
Et puis pour vous, le problème, Pascal Lardelier, c'est que tous ces gourous du langage corporel colportent une image désastreuse, hein, des relations interpersonnelles, des relations basées sur la manipulation, la méfiance et la paranoïa.
C'est ça, oui, c'est vrai que c'est une espèce de guerre froide relationnelle qui, à les lire, doit prévaloir. Donc un malin ennemi, toi, tu mens, mais je vois que tu mens. On le dit pas, mais on le sait bien. Je vais m'adapter à toi parce que j'ai décodé quelque chose à ton insu, à ton corps défendant, c'est bien le cas de le dire. Et c'est quelque chose qui, effectivement, ne va pas dans le sens d'une bienveillance relationnelle, d'une ouverture à autrui. Hein ? Et puis alors, autre chose, et d'un point de vue méthodologique, comment peuvent-ils, ces gens-là, qui sont porteurs de tellement de théories, comment peut-on, dans l'interaction, être présent à autrui, présent à ce que nous dit autrui, et le décoder en permanence en s'adaptant à ce qu'il est en train de dire ? C'est une posture schizoïde qui n'a pas de sens.
Bonjour Guillaume.
Bonjour Guillaume. Bonjour.
Alors, d'où appelez-vous Guillaume ?
J'appelle du 17 Charente-Maritime.
Bon, alors vous êtes joueur de poker ?
Ah. Tout à fait, comme beaucoup. Et c'est un domaine où, alors j'ai écouté votre émission, et c'est un domaine dans lequel on utilise énormément le comportement non-verbal, que ce soit ce qu'on appelle les mouvements du visage, des poker, on appelle ça avoir la poker face, et où les mouvements du corps, des jambes, des bras, et il y a eu énormément d'articles écrits par des joueurs professionnels, souvent d'anciens policiers même, et je voulais savoir si vos spécialistes avaient un petit peu étudié l'utilisation de la lecture des gestes de la communication non verbale dans le cadre justement du jeu comme le poker.
Ça, c'est pour Marwan Mehri, grand spécialiste du poker.
Alors, poker, ça fait maintenant 24 ans que je joue. J'ai payé mes études, pour rien vous cacher.
En étant joueur,
je joue 3-4 fois par semaine quand j'étais étudiant. Et mes vacances. Alors, le poker, il y a tout. Vous faites référence à l'ouvrage de Navarro, je suppose, hein, ancien interrogateur de la CIA, du FBI, qui a créé un bouquin notamment sur les poker tells. Donc, les tells, c'est les signaux non-verbaux qui peuvent fuir, en fait, de votre visage, votre corps, qui permettront justement de porter un regard éclairé sur des situations qui sont parfois un peu complexes. Donc il y a des choses sur lesquelles on a travaillé, et c'est vrai, notamment au niveau des micro-expressions, sur le visage qui peut révéler certaines fuites émotionnelles. Dès lors que vous avez de l'enjeu qui est important, dès lors que vous avez des grosses cartes et vous tentez de masquer la joie, ou bien du dégoût parce que finalement, les cartes qui vont tomber, notamment qui vont alimenter le board, donc les cartes communes, ne vont pas améliorer votre main. Donc on a des centaines de vidéos sur le sujet qui nous permettent effectivement que le corps peut nous trahir. Alors après, une fois qu'on sait ça, malheureusement, il y a ce qu'on appelle des contre-mesures. Les contre-mesures, c'est que une fois que vous savez ce sur quoi les adversaires vont observer, ce qu'ils vont regarder, vous pouvez produire ce qu'on appelle des contre-mesures. Donc vous pouvez bouger volontairement votre corps pour induire l'adversaire en erreur. Donc au final, on a une alchimie, un amalgame qui fait que plus rien n'est lisible, et le problème, c'est de toujours, encore une fois, tenter de réinterpréter.
Christophe André.
Oui, c'est ce qu'on appelle le bluff. C'est-à-dire tous les joueurs de poker connaissent là, ce qu'il y a dans la tête des autres et donc ils peuvent faire semblant d'être déçus alors qu'ils ont une main royale, etc. Donc on peut mentir avec notre corps comme on peut mentir avec nos mots.
Exactement. Merci beaucoup Guillaume de nous avoir appelés. Et Nadine nous dit sur notre page Facebook « Mes parents sont d'origine africaine, j'ai donc été élevée dans cette culture. Dans cette culture, les enfants ne doivent pas regarder les adultes dans les yeux lorsqu'ils s'adressent à eux. J'ai toujours entendu « baisse les yeux quand je te parle » dans ces sociétés occidentales. Ne pas regarder dans les yeux semble refléter un caractère de fourbe, de menteur. J'ai dû lutter pour regarder par la suite mes instituteurs et autres adultes qui eux me demandaient de les regarder dans les yeux. J'ai donc dû lutter pour me défaire d'une habitude culturelle. Pascal Lardelier.
C'est le credo de l'émission, c'est qu'en fait on ne peut pas universaliser ou généraliser et que le geste, le regard prend sens dans un contexte et dans une culture. Hein, je le disais tout à l'heure, dans une culture au sens anthropologique et sociologique du terme. Voilà, donc comment peut-on qualifier un regard sans coup férir?
Ce qui est très intéressant, vous allez par exemple au Japon, les mères japonaises n'ont pas le droit de montrer de la colère ou de la tristesse devant leurs enfants. Donc du coup, ce qui va modifier le comportement. Et encore une fois, le risque, c'est de vouloir généraliser tout ce qu'on peut observer.
Allez, nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000.
You get me out, you get a show. There's so many bodies on the floor. So, baby, we should go and have some more. Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Down, did it down, did it down, did it down, down, down. Everywhere I look at people's hands, thrown up in the air to help them dance. Come on, baby, catch me if you can. I know you don't have any other plan. Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Down, did it down, did it down, did it down, down, down? Are you
Marianne Hill interprétée Down.
Ali Rebbi, grand bien vous fasse. Sur France Inter.
Peut-on vraiment décoder le langage corporel? C'est notre question du jour avec le sociologue Pascal Lardelier, l'expert en négociations difficiles et en mensonges, Marwan Mery.
D'un côté, on a François Hollande qui a greffé sur lui la gestuelle de Mitterrand. Donc on va voir les mains comme ça, le coude auprès de la tribune. Et puis surtout, ce fameux moulinet, qui d'ailleurs n'est pas un mauvais signe, c'est au contraire très bon. C'est la capacité à emmener l'autre vers le changement. Sauf que c'est une gestuelle qui est apprise. Et donc ça, ça se voit et ça se sent parce que les gens l'ont en tête. Nicolas Sarkozy, qui certes est plus expressif, mais parfois a une fâcheuse tendance à mimer les choses et à faire des gestes qui figurent une réalité qui n'existe que dans son esprit. Ça, c'est l'apanage du menteur. Nicolas Sarkozy va se toucher le nez. Le nez, c'est l'image. Il y a une préoccupation chez Sarkozy qui est l'image de façon générale. Donc les deux, en fabriquant des gestes, finalement fabrique du mensonge.
Le synergologue Stéphane Bunard en 2012 dans un reportage de l'AFP. Commentaire Pascal Lardelier sur tous ces experts qui envahissent les plateaux pour décoder la gestuelle des hommes politiques.
Bah, c'est du pur délire interprétatif à mon avis. Là on entend des choses, c'est juste incroyable quoi. On revient à un temps pré-scientifique où voilà, on fait des espèces de liens entre des gestes, des moulinets, des états d'âme, des émotions. Enfin, je trouve que c'est consternant vraiment. J'essaye d'employer un mot qui ne tombe pas sous le coup de la loi, hein, parce que sait-on jamais, mais bon, mais le débat doit se passer à l'université après tout, pas dans les prétoires, mais c'est vrai que c'est du pur délire, enfin vous avez entendu.
Maron de Mairie.
Ouais, c'est effectivement, c'est quelquefois ça peut prêter soit à rire ou c'est effectivement c'est assez concernant. Le problème, c'est que souvent ils affublent des termes pseudo-scientifiques pour pouvoir justifier en fait certaines analyses. Le nez représente l'image. J'ai jamais lu une étude scientifique qui en parle. Encore une fois, c'est tout ça est basé sur l'interprétation d'une personne qui va tenter de généraliser tout ça. Mais encore une fois, ce type d'analyse, on le revoit également sur les images figées. Vous prenez par exemple des photos, les gens vont analyser les photos. Une photo, ça veut rien dire, c'est une fraction de seconde, voilà, que vous prenez. Si je devais vous prendre en photo comme ça, Ali, votre tête serait déformée,
ça,
et ce qui ne voudrait rien dire. Ce qui est logique, parce que vous avez ce qu'on appelle la ponctuation non verbale, quand vous allez vous exprimer, votre visage va se déformer. Et souvent, les gens peuvent analyser aussi les photos. Et en séminaire, quelquefois, je montre une photo, et je leur dis qu'est-ce que c'est. Et les gens me disent, ah ouais, là, la personne est en colère. Et je leur réponds, la personne éternue, ça n'a rien à voir. Et qu'effectivement, quand on éternue, le front peut s'affaisser. Voilà.
Pascal Ardelier, au fond, pour vous, le corps ne dit pas tout haut ce qu'il pense. On ne lit pas dans l'autre, comme dans un livre, en le jugeant sur sa communication non verbale.
Non, je pense qu'effectivement, toutes ces théories, toutes ces pseudo-théories, elles se fondent aussi sur une société du décryptage systématique, du contrôle total et de la transparence absolue. Et je crois qu'on doit garder dans les relations interpersonnelles une part de bienveillance, d'improvisation et puis d'opacité. Voilà. Hein, et c'est bien après tout ce que nous apprend la psychanalyse, hein, c'est qu'on ne sait pas grand-chose de ses propres pensées. Comment peut-on avoir la prétention de lire à livre ouvert dans le corps et les pensées d'autrui ?
Merci beaucoup Pascal Lardelier. Enquête sur le business de la communication non-verbale et publique chez EMS. Merci Marwan Mairie. Il faudra revenir pour parler de mensonges. Hein. Votre best-seller, Vous mentez, est publié chez Erol. Demain, on se demande quels sont les bienfaits du bilinguisme chez les enfants. Nous attendons toutes vos questions dès 9h au 01 45 24 7000, et par courriel, grandbienvousfasse @radiofrance.com. À la technique ce matin, Alice Berger, Éric Morin et Léo Prangère. La programmation musicale était signée Muriel Pérez. À suivre, Nagui et sa bande originale.